Claude, ce matin, on parle d'un journaliste marseillais dans Libération.
Qui s'appelle Benoît Gilles et qui médite ainsi. Tu donnes l'alarme, tu penses faire œuvre utile et à la fin, il y a des gens qui meurent. À quoi ça sert ce qu'on fait? Pourquoi on écrit? Car Benoît Gilles avait annoncé il y a 2 ans la catastrophe qui endeuillait Marseille. Il avait décrit ce 63 rue d'Aubagne qui s'est effondré avec son voisin, un immeuble insalubre et l'air à peine respirable, l'odeur des murs moisis. On peut lire encore ses articles sur le site de Marc Actu, son petit journal entre guillemets en autogestion qui avait tout dit du drame du quartier de Noailles et cela n'a rien empêché. Et Libération, qui rencontre bien Marseille ce matin, a choisi de clore son dossier par ce confrère de 46 ans qui dessine aussi parfois quand les mots lui manquent. Ainsi, une maman qui vit volet fermé avec son bébé dans les bras dans un rez-de-chaussée qui donne sur une cour infestée de rats. Benoît Gilles qui ressasse le déshonneur d'avoir crié sans être entendu, comme si c'était de sa faute. Et c'est une leçon pour cette revue de presse aussi. Le journaliste est là pour connaître la merde, dit Bruno Gilles. C'est un métier qui ne connaît pas de frontières. Aux États-Unis, le New York Times publie une enquête formidable sur Facebook plongé dans la crise des ingérences russes pendant la campagne présidentielle. Delay, deny and deflect. Gagner du temps, nier, égarer les soupçons. Et l'on y voit Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, les dirigeants de Facebook, cette entreprise réputée progressiste qui envisageait de supprimer le compte de l'alors candidat Donald Trump pour ses propos xénophobes. On voit cette entreprise et ses gens se raidir sous la menace et finir par embaucher une société de relations publiques proche du Parti républicain qui ira suggérer que les attaques contre Facebook sont le fait d'antisémites ou bien sont financées par le milliardaire George Soros, la cible des populistes. Facebook se défend, vous lirez la polémique et un résumé de l'enquête sur le site du Monde. Le Monde, qui lui aussi prend sa part du combat et publie dans son magazine, c'est déjà sur le web, le récit hallucinant de la séquestration en Arabie Saoudite il y a un an du premier ministre libanais Saad Hariri, comme une répétition de l'affaire Khashoggi, mais lui s'en est sorti Hariri. Le prince Mohamed Belsalman, me dit Le Monde, en violentant le premier ministre libanais, poursuivait une idée surréelle, provoquer au Liban une guerre civile entre sunnites et chiites pour que le Hezbollah chiite cesse de se mêler de la guerre au Yémen, cesse de gêner l'Arabie. Ainsi exhale une étrange odeur, nos apprentis sorciers.
L'équipe, Claude, l'équipe confirme les fichages ethniques du Paris Saint-Germain.
Et donc, bonne nouvelle, Mediapart n'est plus seul. Mediapart qui poursuit ses enquêtes sur le football et commence aujourd'hui une série sur Monsieur Ribolovlev, milliardaire russe et propriétaire de l'AS Monaco, un homme jadis accusé du meurtre de son associé, un homme qui ne mange jamais un yaourt qu'il n'aurait lui-même ouvert, un homme qui racheta jadis pour 95 millions de dollars une villa en Floride que son propriétaire, un certain Donald Trump, n'en avait payé que 41. Bref, Monsieur Ribolovlev dans Mediapart, qui ne lâche pas le football. Mais vous l'avez dit, l'équipe monte à son tour au front du PSG. Le PSG dont les recruteurs devaient cocher des cases sur un formulaire pré-rempli pour les jeunes joueurs franciliens qui les intéressaient. BC Blanc ou BK Black ou BR Beur, M Métis ou S Asiatique. Et ce fichage existait depuis 2002, bien avant donc un autre fichage, celui-là destiné à la province que Mediapart avait dénoncé, où l'on triait les joueurs entre Français, Africains noirs, Antillais et Arabes. Et se révèle donc une culture, un système. L'équipe veut être juste aussi et donne la parole à des entraîneurs de clubs banlieusards qui défendent le PSG et ses émissaires. Je n'ai jamais ressenti chez eux la moindre connotation raciste, dit Abdelaziz Kadout, manager du FC Montfermeil, qui ajoute « Entre nous, éducateurs, quand on parle d'un jeune, on dit parfois « T'as vu le petit rebeu ou le renois de telle ou telle équipe ?» Ce n'est pas toléré par la loi, mais c'est le discours habituel. Sommes-nous alors journalistes trop tatillons ou bien le peuple du football est-il, sans même le savoir, aliéné?
Allez, on parle du peuple pour finir dans la presse.
Cette part du peuple qui demain veut bloquer les routes est à la une de Marianne. Ce peuple qui pue le diesel, dit le journal, un peuple que mépriseraient les médias. Allons, confrères, assertion rapide, tant les journaux débordent de gilets jaunes et de compréhension de la colère. La Voix du Nord le proclame à sa une, le gazole a augmenté de 25% en 8 ans. Sud-Ouest est en relais et en écho. Le fioul domestique a pris 30% en un an. Les gens vont moins se chauffer. Caricature dans Sud-Ouest. Le carburant n'ont-ils que cela à la bouche, dit un homme dans une chaise à porteur. Est-ce, assaillira le président Macron? Un autre journal parle du peuple de France. Ce peuple affamé de Otakos, oui, Otakos, une chaîne de junk food aux sandwichs épais et gras qui sont le bonheur des society de cette France que l'on dit périphérique. Car comme le dit Camille, dans la vie, mes trois trucs préférés, c'est Snapchat, Netflix et Otakos. Et comme le dit Ludovic, mon voisin fume plein de joints et quand il a une fringale, il n'y a qu'un tacos qui le remplit. Tous les bédaveurs qui se kiffent au tacos, et comme le dit Lucas, on se prend un tacos et après une bouteille de whisky chez Auchan, le tacos ça plâtre, tu encaisses mieux l'alcool. Et vous avez alors textes et photos à l'appui, photos de ces enseignes qui se logent au pied de vieilles maisons ouvrières, à travers une marque que les élus draguent pour animer leur centre-ville, le portrait d'une merde douce qui est aussi notre pays, un pays dont le peuple se bat pourtant, mais l'est-on. À Marseille, où nous terminons donc, je lis dans le Méridional que l'association Emmaüs de Saint-Marcel, qui chaque année, en juin, organise un nettoyage citoyen de la rivière Luvaune. S'est retrouvé cette fois avec des déchets toxiques, presque 100 kilos d'amiante. Et après 5 mois, personne, aucune autorité, ne veut aider Emmaüs à s'en débarrasser. Ainsi se prolonge l'abandon.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.